Le futur dépend-il de nos actions et de nos choix? Quel sera notre héritage? Quel impact avons-nous sur ce qui nous reste à vivre? Comment souhaitons-nous construire un environnement sain pour s'inscrire dans un bien ensemble? Bienvenue dans Aujourd'hui Demain, une invitation à la réflexion à travers les histoires de ceux qui nous entourent. Le Red Bulletin.
Comment tu vas?
Ça va bien?
Ah bon?
Ouais, ça va.
La santé?
Dans ce premier épisode, nous partons à la rencontre de l'entrepreneur Bakary Sakho. Après être passé par le milieu associatif, il décide de s'attaquer à la performance sociale avec son agence Panagone.
Bakary Sakho, j'ai 40 ans. J'habite au 19e depuis 40 ans. Marié, des enfants, scolarisé primaire, collège sur le 19e, lycée sur le 18e. Jamais passé le bac parce que j'ai eu un conflit avec ma prof d'histoire et le prof principal. Donc j'ai pas été jusqu'au passage du bac. J'ai dû faire ça plus tard par ambition personnelle, de repasser le bac et de m'inscrire plus sur de la spécialisation que de faire des études académiques. Donc je suis ce qu'on appelle modestement, mais autodidacte par l'action en fait. J'apprends en faisant. Voilà. Et je n'ai jamais vu l'échec comme une fatalité, mais plutôt comme des étapes sur lesquelles on ne fait qu'évoluer. Je suis dans le milieu associatif depuis presque 25 ans. Donc en 1996, j'ai à peu près 15 ans. Et ma mère faisait partie des premières femmes sur le quartier qui militaient. On habitait rue d'Aubervilliers, donc le quartier Stalingrad. Ben, en fait, j'habitais en face du Jardin des Halles, là où il y a tout le problème du crack et tout en ce moment, dont on parle beaucoup en ce moment. Et ma mère faisait partie de ces femmes militantes pour l'accès à un logement salubre, décent. Je dis à chaque fois que c'est uniquement par amour pour ma mère que je l'accompagnais au début. Et après, je me suis pris au jeu de traduire de ma langue d'origine, donc le soninké vers le français vers le soninké. Et au bout d'un an et quelques, je faisais partie de ceux qui proposaient des stratégies pour pouvoir interpeller les politiques, les bailleurs et tout. Donc j'organisais presque les manifs. Et j'avais un peu plus de 16 ans à ce moment-là. Et ma première structure associative est née en 2001, parce qu'en 2000, j'ai perdu un de mes meilleurs amis d'enfance, qui est mort d'une mort naturelle. Et de là, c'était pas du tout de la philosophie, je me suis même pas posé les questions comme ça, mais c'est juste que les quelques mois qu'on suivit, je me suis donné une raison d'exister, en fait. Je me suis dit, mais on est des jeunes du 19e, depuis que j'ai 8-9 ans, je suis dans la rue, culture hip-hop, j'ai été dans les premiers gangs de Paris, donc je faisais partie des juniors, donc il y avait nos grands frères, nos aînés, qui étaient dans les mouvements Black Dragon, CKC, ADM et tout, moitié hip-hop, moitié rue, moitié très rue. Et maintenant, j'ai 20 ans, et en fait, la vie, elle ne tient qu'à un fil, en fait, elle ne tient à rien. Et mon pote qui était une des superstars de notre groupe, hyper coté, beau gosse, un malien avec une tête d'asiate, séducteur, danseur, rappeur, basketteur et tout, et ben 3 mois plus tard, il n'existait plus dans le conscient collectif. Bah, c'était fini, tout le monde était passé à autre chose. Il est le fils d'Ali Farka Touré, donc un grand artiste malien, un international, hyper modeste aussi, mais c'est un international, fils unique de sa mère. Et eh ben, il ne se passait plus rien. Et de là, voilà, j'ai réuni mes potes de ma génération de l'époque en disant que ce serait bien de passer à un truc culturel, artistique, faire bouger notre quartier. J'étais en plus la même année à la fête de quartier de la Goutte d'Or, où ils organisaient un super concert avec Diams, la Mafia Quinfri. Il y avait des trucs de ouf là-bas. J'ai dit, mais comment ce quartier de Cassos, là, la rue Miras, Corleone, ces vieux mecs-là, ils organisent des événements comme ça, nous, les mecs du 19e, donc nous, on va faire un truc mieux. Et l'année d'après, on organisait un gros concert avec comme parrain Jamel Debbouze. On avait Tandem, l'Escadrille, Jackie Benji. Bon, voilà, on a mis le feu, quoi, Gabin et tout. Et on s'est vengé pendant comme ça 3 ans du 18e. Et donc, moi, j'aime les défis. Et c'était un des trucs, c'était comment, si demain, je quitte ce bas-monde, je laisse une trace de moi, je laisse un truc cool, quoi. Pas juste les mecs du quartier qui étaient gentils et après les gens passent à autre chose. Faut pas qu'on passe à autre chose quand on parle de moi. Et c'est moitié égoïste, un peu égocentrique, mais en réalité, c'est une action sociale qui va perdurer, qui sera là bien après moi. Là, j'ai roulé ma bosse pendant presque 20 ans, avec plein de transitions. De 2000 à 2005, c'était le 19e, l'action sociale, la culture, nous, les Afro-Caribéens, qui nous sommes, d'où nous venons, l'histoire de l'Afrique, le militantisme, la question de l'esclavage, de la colonisation. Voilà, j'étais à fond sur ces sujets-là. Et en 2005, à la mort de Ziad Ebouna, je me dis, quand je vois nos quartiers imploser, qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est un peu de la poudre aux yeux. En réalité, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de durée dans le temps. Socialement, on n'est pas organisé. Politiquement, on n'est pas entendu. On est manipulé par les marques, par les sponsors qui ils sont avec nous quand tout va bien. Mais dès qu'il y a une difficulté, tout le monde se barre. Et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Quelque chose manque dans notre action. Et j'ai été identifié la même période de 2005 par l'ambassade des États-Unis comme faisant partie, entre guillemets, des futurs jeunes leaders internationaux, des jeunes un peu impactants, 24 ans, avec une grande gueule comme ça, des actions cohérentes et tout. J'étais aux États-Unis pendant près d'un mois sur le programme des leaders internationaux.
Créé en 1981, le programme des jeunes leaders internationaux incarne le dialogue transatlantique. Chaque année, il sélectionne 10 Français et 10 Américains âgés de 30 à 40 ans, considérés comme remarquables dans leur domaine d'activité ou compétences.
Et j'étais dans le programme qui avait été construit autour de ma personne sur le lobby, la communauté noire, le financement privé, l'engagement avec impact social, déterminer son action comme une action politique sans être obligé d'être encarté politiquement. Donc voilà. Et donc j'ai rencontré des sénateurs, des maires, des femmes noires, maires de leur ville, des sénatrices, sénateurs noirs, députés femmes noires, un jeune de 28 ans qui était en pleine campagne pour devenir shérif à Atlanta, des trucs qui m'ont fait kiffer à mort. Et quand je rentre en France, je me dis, ok, maintenant je continue sur cette action sociale, mais j'y rajoute l'économie sociale.
Économie sociale, principe de solidarité et d'utilité sociale.
Il n'y a plus une seule action qu'on va monter qui n'aura pas une volonté d'impact clair, avec un modèle économique et avec une indépendance. Que je sois soutenu politiquement ou pas, l'action ne va pas se faire. Je me rends compte qu'on peut être une fondation, on peut être une grosse agence et qui a pour objectif de faire de l'action sociale. Exemple, à Philadelphie, je participe à un event qui est un gros tournoi, une grosse journée autour des futurs joueurs de NFL, donc de football américain. Et tu as les futurs stars et quelques stars, plus des anciens. Très grosse journée, plus de $700,000 de billetterie à la fin de la journée, donc de recettes. Et ces $700,000 partent pour la promotion de futurs jeunes qui n'ont pas les moyens de payer leur bourse universitaire. Lourd. C'est une action sociale qui génère presque $1,000,000 sur une journée, mais toute l'année, ils vont accompagner des gamins pour qu'ils aient accès à l'université. Ultra lourd. Et donc, je reviens avec cette mentalité-là en France à partir de 2006. Et après, la question de l'agence, c'est comment on ne fait que ça. Comment on n'a plus de taf alimentaire. Parce qu'avec mes associés, on avait 35 heures d'un boulot alimentaire, 35 heures d'action sociale, 70 heures par semaine. C'était trop. Donc, on s'est dit, on sait aussi gérer une entreprise, on a un bon modèle économique, on a des gens qui vont devenir nos clients alors qu'ils étaient nos partenaires hier. Donc, il y a nos partenaires, nos sponsors. Aujourd'hui, on va sous-traiter des événements pour eux. Et donc, ils seront nos clients qu'on va facturer. Et ça va nous permettre de nous concentrer sur le business, l'économique et le social. En fait, Spanagone existe depuis 2020. Après, il y a eu le Covid, en fait. En 2019, on était avec l'avocat, l'expert comptable. On était déjà en train de travailler sur tout ça. En mars, avec le Covid, on avait levé le pied. Ça n'avait plus de sens de lancer les statuts. Et février 2021, on s'est dit, maintenant, coûte que coûte, on y va. C'est des années de travail, d'événements qu'on réussit, ratés, de pertes de financement, de conflits, de disputes aussi. C'est aussi ça qui donne tout le goût que l'on connaît aujourd'hui. C'est parce qu'il y a aussi des débats houleux entre nous, parce qu'il y avait un intérêt supérieur. On a une philosophie chez nous, un terme qu'on utilise, on met nos égos au service du projet et pas le projet au service de nos égos.
Ryan Holiday, écrivain et marketeur américain, définit l'ego comme un sentiment non sain de notre propre importance dans son livre « Ego is the Enemy » sorti en 1987.
À chaque fois que quelqu'un a voulu utiliser un projet pour se nourrir lui et briller lui, il a été exclu. On ne plaisante pas avec ça. Ça, c'est un commandement chez nous. Tu mets ton ego au service du projet, parce que le projet a un intérêt supérieur. D'abord, on gratte nos poches, c'est important. Bah ouais. Déjà, si tu crois dans ton propre projet, bah, tu y mets du tien. Donc déjà, on fouille dans nos propres poches, on va aller fouiller dans les poches des autres. On essaie d'être dans des concepts où nos projets, avant de les sortir, avant de les faire émerger, avant de les faire exister, on gamberge dessus le nombre d'heures qu'il faut. Et de là, on a un storytelling qui est cohérent, une histoire qui peut être impactante pour une marque qui veut s'y associer, et après on rentre en négociation. On a un de nos programmes, là, les All Parisian Games. Sa première volonté, c'était pas de monter un tournoi de basket pour faire un tournoi de basket, c'était de dire, il ne faut pas qu'on laisse nos jeunes, nos futurs sportifs de haut niveau, garçons et filles, devenir pros sans qu'ils aient vécu pleinement leur basket en junior, en étant jeune. Faut pas faire ça. Et en 2017, opportunité, le groupe Jordan nous propose de recevoir 3 joueurs NBA. Et de là, on se lie plus d'amitié qu'une affaire de business. Et ça fait l'aventure qui est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. On reçoit LeBron James, Kobe, on reçoit des Hall of Fame, des MVP, les stars de la NBA. On est l'arrondissement, le gymnase, le programme qui a reçu le plus de joueurs NBA au monde. C'est ça aujourd'hui l'histoire des All Parisian Games. C'est qu'il y a nulle part au monde un quartier, un gymnase, une petite salle, un programme indépendant de la NBA, de Nike et de Jordan a autant reçu de stars NBA. Donc ça, c'est super cohérent pour nous. On ne l'a pas provoqué dans ce sens-là. Nous, on voulait d'abord un événement qui est la célébration de nos garçons et de nos filles. Aujourd'hui, le K54, la Fédération de basket, la Miral League, aujourd'hui, on pousse le basket féminin. Nous, on le faisait en 2012 de manière ultra naturelle. On ne voulait pas exclure nos filles d'un événement qui met en lumière le basket parisien. Donc, c'était... On l'a gambergé, on l'a réfléchi ensemble et on s'est dit, mais ne pas faire les filles, ça serait incohérent. Donc voilà un peu comment on pense nos événements. Et au final, on est content de voir que d'un événement festif de célébration, ça devient finalement presque un programme politique parce que il y a les back to school qu'on organise, la Summer League, il y a les chantiers avec Oasis Sportive, la rénovation des playgrounds. Tout ça est né aussi de cet événement en réalité. Donc c'est une fête, mais une fête qui a donné naissance à un programme éducatif. Là, on a un pote qui structure toute une agence d'accompagnement de nos garçons et de nos filles vers le monde pro, parce qu'ils sont représentés par personne, leurs intérêts sont défendus par personne. Et donc, de notre programme, alors c'est un mec qui est dans les affaires depuis très longtemps, et qui dit, je monte une affaire autour de vous, et les joueurs passent par moi, et je m'occupe de défendre leurs intérêts. On n'aurait pas fait ça. Lui, ça ne l'aurait jamais donné cette idée et d'investir des sous dans un programme comme celui-là. Donc voilà, on essaie de travailler de manière cohérente et c'est comme ça qu'on travaille avec les privés aujourd'hui, plein de privés, avec qui nous, ce qui compte d'abord, ce n'est pas de nous arroser de financement, c'est la question de l'impact social. On ne veut pas faire le travail associatif traditionnel. Tu montes une association, tu fais un tournoi de foot, tu prends 5000 euros à la mairie, tu as éclaté les 5000 euros et après tu redemandes 5000 euros l'année prochaine. Quel impact a eu ton projet? Est-ce que tu l'as organisé comme une grosse agence? Est-ce que tu l'as brandé comme les agences? Est-ce que tu as pensé ta structure associative comme on penserait structurer la création d'une entreprise? C'est comme ça qu'on fonctionne. La performance sociale, c'est de se dire, c'est pas parce que c'est du social qu'il faut faire tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'on le fait avec le cœur qu'il faut le faire comme ça. On dit, mais au moins, le cœur y était. Non, fais pas. Moi, je suis le premier à dire à tout le monde ici, ne le fais pas. Ici, juste avec le cœur et pas la raison, ne le fais pas. Parce que tu vas faire que des saloperies. Tu veux aider l'Afrique en envoyant tes chaussures pourrites et tes livres que tu ne lis plus, n'envoie rien du tout. Parce que l'Afrique n'est pas une poubelle géante. Ou t'envoies ce qu'il y a de mieux chez toi, en vêtements, en livres et tout, ou t'envoies rien du tout.
Lors d'un échange animé entre Emmanuel Macron et la jeunesse africaine, à l'occasion du 28e sommet France-Afrique, Raimwende Eldakwama dit au sujet de l'aide apportée à ce continent. Fini les expressions « sauvons l'Afrique », aidons à développer l'Afrique. Il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, monsieur le président. Si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut, à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Il en va donc de même pour le milieu associatif et entrepreneurial.
On fait du social, d'accord. Mais faisons-le comme l'ont fait la Fondation Abbé Pierre, comme le font les fondations. Fondation Total, Fondation Carrefour. Ben, ils ne font pas du social pour faire du social. Ils font du social impactant. Donc, un, ça redore l'image de l'entreprise, déjà en un. Et deux, ils essaient de faire en sorte que l'action qu'ils vont mener, eh ben, elle soit cohérente au moins avec les valeurs de l'entreprise. Ben, c'est ce qui nous manque aujourd'hui chez nous. C'est qu'on croit que comme on est dans des quartiers, monter une asso, c'est bien se faire voir. Mais non. Parce que tu as des gens en face qui vont te demander, mais à quoi ça sert? Ça a servi de faire ça? Au niveau statutaire, juridique, c'est ce qui est le plus simple. Monter une association, aujourd'hui, il te faut 38 euros. Et tu montes une asso, déclaration au JO, compte bancaire. Bon, voilà. Avec moins de 50 euros, tu crées une structure associative. Et tu n'es pas obligé d'être rentable. Dans le sens où, si tu montes des actions, eh ben, tu ne serais pas déficitaire. Alors qu'une entreprise, du moment où tu l'as créée, ben, tu vas commencer à payer des taxes, de la TVA, des impôts, chaque année sur l'entreprise. Et on monte d'abord le 99, qui est un système qui dit quand tu as 1% d'idées, on t'accompagne à 99%. On mutualise, on gamberge ensemble, on brainstorm, on critique beaucoup les projets des uns et des autres. Ton projet est trop nul et incohérent. Il ne faut surtout pas le faire. On n'a plus peur de se dire ça entre nous. Parce que c'est important aussi de se dire la vérité entre nous. C'est, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on veut faire du bien à nos quartiers ou même pas à nos quartiers, mais qu'on veut avoir une action sociale qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Donc de là, on crée le 99, qui est une structure d'économie sociale et solidaire. Et tout naturellement, on s'est dit on est devenu assez bon en termes de stratégie, montage, production d'événements, bah on a créé une agence qui s'appelle Panagone. Et donc Panagone capitalise, mutualise et permet à chaque assos d'être dans cette performance sociale. Parce qu'une fois que tu pars d'assos à agence, et bah nous on a des obligations en tant qu'agence qu'on devra tenir. Et nous en tant qu'association, il y a des savoir-faire que nous n'avons pas et sur lesquels on va laisser les choses. Et donc là on est bien comme ça, il y a un vrai équilibre. Et c'est ce qui permet à chacun d'entre nous de se dire, OK, il y a la partie économique du projet, donc rendre rentable l'action que tu mènes, ce qui est normal, mais il faut absolument que sa dimension sociale, elle ne soit pas perdue. Et peu importe ce que tu fais, on a une maison d'édition, on ne perd pas sa dimension sociale. D'un côté, on vend des bouquins, c'est super, la FNAC, on fait du Combini, on fait plein d'émissions et tout, c'est très très bien. Et de l'autre, on va dans des écoles et on donne... le moyen à nos gamins de se connecter à des livres qui ne sont plus scolaires, plus les livres qui sont imposés par les enseignants, mais des livres qu'ils vont choisir. Et dans ces livres choisis, ils vont rencontrer aussi l'auteur. Pas simplement pour dire c'est un écrivain, non, ce sont des histoires. Vous allez rencontrer des gens qui ont des histoires et vous avez tout autant d'aussi belles histoires à raconter. Si tu as que 14 ans, peut-être que tu es encore trop jeune pour avoir une belle histoire à raconter, mais tu as une histoire familiale. L'histoire de ton quartier, l'histoire d'un sport sur lequel tu es passionné. Peut-être que tu es fan de manga, raconte-nous ça. Et les gens qui me connaissent se diront, si Bakin a écrit un livre, sorti un bouquin, c'est qu'on peut le faire, c'est que vraiment c'est hyper cohérent en réalité. Il ne sait pas, il parle, ouais, écris-moi des bouquins. Voici, il a ouvert la voie. Il l'a fait, on le connaît, on a grandi avec lui, donc on peut se lancer dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On reçoit des manuscrits de gens qui n'auraient jamais osé se lancer dans l'édition ou dans l'écriture, sortir un ouvrage si je ne l'avais pas fait. Et c'est ça qui est cool et qui est inspirant. Je sais juste que je sais écrire, je peux écrire et j'ai le droit d'écrire. Et si je connais des grands auteurs ou pas, ce n'est pas le sujet. Donc c'est ce qu'on fait avec Face Cachée. Pas la peine de faire étalage de ma connaissance et de ma culture générale. Ce qui compte, c'est que chez nous, on se mette à écrire parce qu'on a des vraies bonnes histoires à raconter. Et surtout en plus, sur la question de la performance sociale, c'est qu'on est aussi spécialiste de nos quartiers. Il y a une chose qui me gênait beaucoup, c'est de voir très souvent, et ça se fait encore aujourd'hui, on en parlait hier, c'est de voir encore très souvent sur nos quartiers, des gens de l'extérieur venant nous dire comment est-ce qu'on doit fonctionner, vivre et travailler. Lâche-moi. Si je n'ai pas la technique, mais j'ai la connaissance. Donne-moi la technique. Et moi, j'ai la connaissance de ce milieu-là. Et je vais faire le travail qu'il faut faire. Je ne t'interdis pas de m'accompagner, mais ne viens pas penser à ma place. Ça, c'est méprisant et surtout insultant. On n'a juste pas les moyens de faire. Maintenant, avec l'agence, on est sur une autre dimension parce qu'on peut capter 150, 200 cas, 300 cas sur des grosses, grosses opérations. Et là, on va plugger les assos cohérentes. on fait la rénovation de Stalingrad, c'est 500 000 euros de budget. Pour la construction du terrain, l'installation des grilles, l'inauguration, les maillots et les shorts qu'on a produits avec Nike. Là, il y a c'est 504 budget, mais c'est 2 ans de travail. Voilà un peu la différence. Mais ça, ce n'est pas l'association qui aurait pu gérer ça. Elle n'a pas les compétences. Elle n'a pas de salariés pour gérer. Parce que là, tu as le commissaire aux comptes qui tombe sur le dos, tu as de la facturation, tu as des postes à créer. Donc, ce n'est pas une assos qui fonctionne avec 100% de bénévoles, qui a les épaules assez solides pour conduire de telles opérations. Alors qu'une agence qui a des salariés et des gens qui ont été recrutés, pas sur la base de l'affect, mais sur des compétences, donc CV, le de motivation, entretien, qui sont dans un organigramme avec un N+1, N+2, N+3 et tout, là on peut dire 500K, c'est très facile à gérer à ce moment-là, parce qu'on a des comptes à rendre, des déclarations à faire. Et l'agence, elle est le pont entre le monde du capitalisme et le monde du social. Elle est un pont entre les deux. On n'a rien contre le social, rien contre le capitalisme. L'idée, c'est de réussir à converger intelligemment. Comment une marque forte, qui fait du million d'euros chaque année de chiffre d'affaires, pour ne pas parler en milliards pour certains avec qui on travaille, comment elle peut avoir une action qui ne soit pas patriarcale, qui n'infantilise pas le public, et de l'autre côté, une action sociale qui ne se dérobe pas de son essence, de ce qu'elle est dans sa profondeur, parce qu'en face, il y a un peu de financement et qu'elle veut essayer de survivre avec ça. Voilà, l'idée, c'est de créer le pont entre ces trucs-là. Et donc, nous, on est sport, culture et image. On est action sociale, performance sociale et modèle économique. On est Paris, dans sa culture la plus profonde, urbaine, rurale. Et on est l'Afrique, on est la culture afro-caribéenne. C'est ça que regroupe Panagone. Panagone veut dire le pana du panafricanisme, donc les États-Unis d'Afrique, qui réunit les Caraïbes et tout. Donc c'est toute la question de la culture. Donc, il y a une dimension politique, mais c'est toute la question de la culture que l'on met en avant. Et Agone veut dire la direction, la performance. C'est un mot latin, grec, qu'on utilise. Donc on a fait le mélange entre un terme qui concerne le panafricanisme, donc le préfixe, et on utilise derrière un terme latin qui nous définit bien pour le coup sur la vision que nous avons depuis toujours et depuis le moment où on s'est engagé dans ces opérations de valoriser ce que nous sommes et de faire savoir ce que nous faisons. Et Panagone, notre logo, c'est le rond, c'est un O. On a pris le O du Panagone, donc on a les t-shirts et les maillots là-bas. Et ce dièse zéro, ce dièse O, va nous permettre de nous lancer, donner notre définition de sport et culture, d'impact du sport dans la culture. Et on a organisé notre première block party à Stalingrad cette année, dans le cadre de la saison africaine, donc Africa 2020, qui est un programme donc, de Macron, du gouvernement, pour que l'on fasse partie des activations en France de l'Afrique racontée par la diaspora africaine. Ce n'est pas les autres qui ont fait 3 mois en Afrique, qui viennent dire « oui, j'ai lu 2 livres, j'ai fait des interviews, maintenant je vais vous parler de l'Afrique en tant que spécialiste de l'Afrique ». Non, c'est les Africains qui vivent Afrique, qui mangent Afrique, qui respirent Afrique, leurs parents le sont, ils y ont été, ils ont un attachement profond, en plus ils ont lu les bouquins, les références, ils ont… en fait, on est des spécialistes sur cette question-là. Et c'est plutôt cool de nous approcher dans cette dynamique-là. Et on a organisé donc une block party, et ça tombait bien, parce qu'avant d'être approché, Panagone, l'agence, donc la société, se voulait l'organisation d'un festival annuel Panagone, avec journées autour de la culture, de l'histoire, de la mode, de la femme afro-caribéenne, de la gastronomie afro-caribéenne. Voilà, 7 jours d'événements où tous les sortes d'une thématique qui nous touche profondément. On produit notre propre événement, avec des sponsors, avec des partenaires, pour la dimension sociale. C'est toujours dur pour un entrepreneur d'être seul dans son aventure. Des fois, c'est bien d'avoir des garanties financières de gens qui mettent de l'espoir dans ton projet et qui ont foi dans ce que tu es en train de faire et qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec toi et prendre des risques avec toi. C'est aussi ça le jeu. C'est qu'OK, je vais mettre 30 000 euros sur la table, c'est ce qu'il te faut pour développer ton projet, ce qui n'est pas une somme énorme réalité pour un millionnaire. Et j'y crois et je mettrai mon réseau en place pour te soutenir. Et si ça ne marche pas, c'est une aventure. J'ai un goût un peu amer maintenant avec le tissu associatif, parce que c'est devenu un fourre-tout et il y a trop de clientélisme. Des gens, on ne nous met pas assez en concurrence. Et moi, j'aimerais qu'il y ait de la concurrence. Il faut arrêter de subventionner les assos comme ça, qui ne donnent pas de résultats derrière. Les clubs de prévention, c'est une catastrophe. Les clubs de prévention, les éducateurs spécialisés, une catastrophe. Il y a des extrêmement bons dans ce domaine, mais je pense que la plupart sont extrêmement mauvais. Et c'est pour ça que dans nos quartiers, plus on avance, plus il y a de la délinquance, plus il y a de l'échec scolaire, plus il y a des problèmes de réussite scolaire. C'est quand même bizarre. Quand 40 ans de politique de la ville, c'est de pire en pire. Et ce n'est pas moi qui donne les chiffres. Ça veut dire qu'à un moment donné, on pourrait dire « Oh, mais Bakary, c'est trois militants, c'est de grande gueule, il est toujours chaud et tout. » Si tu veux. Mais prouve-moi par des chiffres que je mens. Ou que ce que je dis est faux. Ouais, j'ai le sang chaud parce que c'est ma nature. Je parle vite, je parle fort. Et je parle avec passion. Mais là, sur la question de la raison, prouve-moi que socialement, les milliards qui ont été investis nous ont fait du bien. Que ça va mieux. Et ce qui compte, c'est ce qu'on laisse derrière nous. Vraiment, pour moi, je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas d'autres intérêts à vivre cette vie, si ce n'est que de laisser quelque chose. Cette vie, elle est beaucoup trop courte. Je ne crois pas qu'une seule âme, qu'un seul être humain n'ait pas de raison d'être. Je ne crois pas. Je crois que chacun d'entre nous, peu importe la densité ou l'intensité de ton action, sa durée dans le temps, en tout cas, ce n'est pas possible que tu sois né en vain. C'est improbable.
Je suis Marie-Maxime Dricot. C'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.